soir. Deux sujets sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC encourage la révision du fichier électoral. Maman Sidikou exhorte la classe politique congolaise à ne pas politiser la question de révision du fichier électoral, qui est une matière technique. Comme deuxième sujet, nous parlerons des 153 agents et fonctionnaires des services de l'État qui ont été révoqués par le Premier ministre. Il leur est reproché aux uns faux et usage de faux en matière de titres scolaires et académiques, et aux autres plusieurs actes de détournement dans l'exercice de leurs fonctions. Et pour en parler, je reçois trois confrères. Ambroise Mamba, bonsoir cher confrère.
Bonsoir Alain.
Vous êtes directeur général de la chaîne de presse Tropicana, Giscard Koussema, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes directeur général du canal Futur Télévision, une télévision qui n'aimait plus depuis un moment. Charles Kipingani, bonsoir.
Bonsoir, Radio Capi, bonsoir à tous nos auditeurs.
Vous êtes éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi, dans la province du Congo central. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La presse quinoise a largement commenté ces sujets que nous abordons ce soir. Kéline Couté nous présente la revue de presse.
Bonsoir. La révision du fichier électoral à la une de la presse écrite cette semaine. La Référence Plus annonce que le patron de la MONUSCO, Mamane Sidikou, est pour la révision du fichier électoral afin que la CENI organise des élections crédibles et paisibles. La tempête de tropique, quant à elle, nous informe des pressions sur la CENI à propos du fichier électoral. Le potentiel constate que la CENI est désormais inscrite dans le schéma du glissement. Au journal de poursuivre que la CENI s'est lancée dans un travail méthodique de pédagogie pour préparer les esprits au glissement. Selon ce quotidien, c'est par les confessions religieuses que le président de la CENI a inauguré la série des consultations qu'il se propose d'étendre à d'autres parties prenantes au processus électoral. Et sur RadioCapi.net, on peut lire « Maman Sidikou exhorte la classe politique congolaise à ne pas politiser la question de révision du fichier électoral qui est une matière technique ». Changeons de chapitre. Pour parler de la révocation des agents et fonctionnaires de l'État, le journal La Prospérité annonce à la une administration publique, Matata révoque 153 agents et fonctionnaires de l'État. Vous pouvez retrouver in extenso dans ce quotidien ces décrets de révocation. L'Avenir de son côté nous informe qu'à travers cinq décrets, Matata révoque plusieurs agents des carrières des services publics de l'État. Forum des As, quant à lui, publie la liste des agents de l'État révoqués par Matata. Au journal de poursuivre que le tsunami déclenché par le chef du gouvernement pour usage de faux a soufflé à la DGRAD, la DGDA aux affaires étrangères et dans plusieurs autres ministères, ainsi qu'à la division provinciale du Kassai oriental.
Merci Kéline Couté. Ambroise Mamba, vous êtes directeur général de la chaîne de presse Tropicana. Plusieurs autres sujets ont fait l'actualité cette semaine. C'est le cas notamment de la promulgation le 31 décembre dernier de la nouvelle loi sur le contrat de bail. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, c'est une loi que j'ai très bien accueillie lorsqu'elle est arrivée. Moi-même, je suis encore locataire jusqu'aujourd'hui. Et je pense qu'elle me réjouit, tant plus qu'il y a certains comportements de la part de nos bailleurs qui ne nous encouragent pas. Et nous estimons que cette loi peut arriver à nous être favorable d'une certaine manière parce qu'il y a certaines pénalités qui n'existaient pas auparavant qui y sont désormais. Mais je pense que le plus important, on a toujours dit qu'en RDC, on a des bonnes lois, mais les problèmes se posent au niveau de l'applicabilité. Et est-ce que cette loi sera appliquée? C'est la grande question à laquelle il faudra répondre. Le chef de l'État a pris soin de la promulguer, mais quitte au ministre ayant en charge les bouts de pouvoir signer les arrêtés, ainsi de suite, et aux OPJ qui pourront être déployés de faire correctement leur travail. Parce qu'à Kinshasa, on sait que beaucoup de bailleurs sont tellement têtus, que cette fois-ci, il faut qu'il y ait cette transparence. Mais le problème, c'est que il y a maintenant cette loi qui ne vise pas seulement les bailleurs, mais aussi les locataires, mais aussi les agences immobilières. Et cette fois-là, il faudra qu'on nous aide à pouvoir nous mettre en règle.
Giscard Koussema, directeur général de Canal Futur Télévision, une télévision qui n'émet plus depuis un moment. Avant d'aborder les autres sujets d'actualité, Canal Futur, ça reste aussi une actualité. Vous n'émettez toujours pas.
C'est toujours une actualité permanente, dans la mesure où nous l'avons toujours dit sur ces antennes que la fermeture de Canal Futur procédait d'une stratégie simplement de réduire au silence toute voix discordante. Et les résultats sont là. On l'a fait pour que cela serve des leçons à d'autres. Aujourd'hui, c'est les cultes de personnalité. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les gens sont frustrés, ça se radicalise et les résultats sont là. Les gens ne trouvent mieux que de s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus efficaces que le média traditionnel. Alors, c'est simplement le résultat de ces genres de mesures.
Où en sont les démarches à ce jour, au moment où nous parlons?
Nous l'avons toujours dit, nous avons fait tout ce qui nous avait été demandé par ces instances qui ont fermé Canal Futur sans document. Nous l'avons fait, nous attendons jusqu'à aujourd'hui, et puis il n'y a plus rien. Et nous ne cesserons de le dénoncer. Les institutions, les personnes passeront, les animateurs passeront, l'État congolais restera, et l'État va réhabiliter un jour, nous en avons la foi, ce crime contre Canal Futur.
Alors nous refermons cette parenthèse-là, la nouvelle loi sur le contrat de bail. Son président Jean-Jacques Benhamé rassure qu'avec cette nouvelle loi, le locataire est sécurisé et peut vivre paisiblement. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, je ne partage pas ce point de vue, simplement parce que réduire le problème de bail, de logement à Kinshasa, à une simple loi, c'est faire une mauvaise lecture. Vous le savez, les contrats sont signés de gré à gré, sont négociés de gré à gré. Et pourquoi aujourd'hui les locataires sont sous les jougs des bailleurs? C'est simplement parce que l'État a démissionné de ce côté-là. Donc l'État devrait d'abord commencer par prêcher par des exemples, avoir des logements sociaux. Si l'État donne toutes les conditions, les gens n'iront plus
chez les privés.
Chez les privés. Alors aujourd'hui, les privés ont pris de l'ascendance parce qu'il y a un vide de ce côté-là. Et puis même cette loi, si vous allez dans les fonds, mais il a été mal édicté. Pourquoi vous dites, lorsqu'un locataire a payé 6 mois, il peut aller se présenter? Mais à quel moment cela s'est fait? Parce que déjà, au moment de négociation, c'est le locataire qui est dans une situation de faiblesse, il accepte.
Merci. Allez-y, terminez votre
question. Donc, c'est de gré à gré que cela s'obtient. Je pense que cela ne nous fera pas avancer tant que l'État congolais lui-même ne va pas résoudre le problème des logements sociaux.
Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi dans la province du Congo central. Charles, pour vous, quelle est votre perception de cette nouvelle loi sur le contrat de bail?
Merci pour les plus à Radio Capi et une fois de plus je profite de souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les lecteurs du journal Gouvernance Plus, à tous les abonnés, bien sûr, qui sont répartis à travers la province, parce que nous sommes forcés d'implanter les journal, en tout cas, dans toutes les grandes agglomérations de la France. Une fois pour moi de leur souhaiter merveilleux et une bonne année et 2016. Et par rapport à cette loi, je me dis, bon, il y a de ces choses, il y a de ces matières qui, à un certain niveau, l'État devient inefficace. Pourquoi je dois le dire? Étant dialogateur, je dialogue depuis 9 ans, je sais comment le bailleur se comporte. Il se comporte de telle manière. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas passé le pouvoir de dire comme il se faut, comme il se doit. Vous allez, je peux prendre le cas de Peter, aujourd'hui déjà cassé au niveau de la province du Congo central. À son arrivée, on devait, tout locateur devait payer 20% des montants qu'il doit payer pour son loyer à la Peter. Mais cette mesure n'a pas tenu au niveau de la cité. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, se disait, l'État n'a pas consulté long pour moi. Alors, comment contourner cette manière de voir les choses de nos bailleurs? Un petit raison, un petit tort, mais dans une certaine mesure, quand l'État montre ses limites, ses failles à un certain niveau, on peut admettre que certaines prises de décision sont acceptées ou acceptables. Et L'État n'a pas, aujourd'hui nous avons à Gombe, l'État a construit des maisons, des appartements qu'on se loue à 1800 dollars, et donc des maisons pour des gens qui ont une certaine classe de vie. Alors que l'État devait parfois aussi construire des logements sociaux. Dès lors que l'État a un pouvoir de me donner, il peut également, éventuellement, mettre une loi bien contrôlée aussi, ceux qui peuvent emboîter les pas. Aujourd'hui, je ne pense pas, à mon avis, que cette mesure puisse tenir dans la mesure où l'État, d'abord, il faut voir combien de bailleurs se sont fait enregistrer à la commune, combien de bailleurs ont des contrats de bail, comme mon confrère l'a dit, que ce sont des contrats faits de gré à gré. Alors, dès lors que l'État n'a pas le contrôle du dossier en amont, comment ces services de l'État peuvent contrôler les dossiers en aval?
Charles.
Et là aussi le problème. Oui.
Et donc, en un mot, comme a dit Giscard Koussema, ça ne fera rien avancer.
En tout cas, c'est une loi qui n'aura pas des résultats escomptés.
Alors, très rapidement, quel est le sujet qui fait l'actualité dans la province du Congo central?
Oui, dans la province du Congo central, l'actualité reste dominée par le changement de nom de la REDER. Aujourd'hui, le DGR Café, donc le directeur général de recette du Congo central, mais aussi de la révocation de bloc, des engins de ce REDER. Aujourd'hui, une partie de ces engins ont été récupérés, et aussi la politisation au niveau de ces dossiers, certains ont même arrivé à une tentative pour des plaintes au gouverneur de province, et la restructuration, voulais-je dire, même de ce service qui pose encore problème, ou sinon qui crée polémique. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, l'attention n'est pas assez bonne par rapport à ça. Oui. Mais aussi, les sujets de la couture du pont sur la route de Bomamanda. En tout cas, une situation qui n'enchante pas surtout les habitants du monde.
Merci.
Le monde qui pense que la cité comme le monde.
Merci Charles. Souffrez que je vous arrête à ce niveau-là, le temps que nous puissions avancer. Je vous prie entre-temps si vous pouvez changer de position parce que la qualité de votre ligne tend à se dégrader. Giscard Koussema, il y a plusieurs sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, mais nous allons aller très rapidement pour nous permettre de commencer d'aborder notre premier thème. Le 16 et le 17 janvier, nous célébrons deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Juste un mot très rapidement.
Le problème, c'est de savoir quel héritage politique nous retenons de ces deux héros nationaux. Chacun en son temps a dû, et en très peu de temps d'ailleurs, chacun en son époque a laissé un héritage politique. Mais vous verrez que c'est aujourd'hui, il y a certains bourreaux de ces deux héros nationaux qui sont là. C'est une journée de méditation, il n'y a presque rien d'officiel. Et lorsque vous posez la question à ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'héritage, comme héritage de ces deux héros nationaux, on sent qu'il y a vraiment un déphasage. Donc ce sont nos héros, sont de deux personnalités qui resteront gravées dans la mémoire collective, mais apparemment les gouvernants ne retiennent rien de ces deux exemples.
Laurent Désiré
Kabila dit n'est jamais trahi le Congo, par exemple. C'est peut-être ça que Giscard Koussema veut dire, mais le côté folklorique, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a du folklore sur le plan politique, mais il faudrait qu'on regarde quel a été l'héritage politique de ces deux héros nationaux pour que les gouvernants, la classe politique congolaise puissent s'imprégner de leur exemple pour conduire la nation vers ce qu'ils nous ont légué.
Merci. Passons à notre premier thème de ce soir. Ne perdons pas le temps, car il y a nécessité de nous pencher sur la révision du fichier électoral. Les mots sont du chef de la MONUSCO à l'issue d'une séance de travail tenue lundi dernier avec le président de la CENI, Maman Sidikou, a affirmé que le secrétaire général de l'ONU veut une révision du fichier électoral crédible et inclusive. Il ajoute que les partenaires sont prêts à soutenir cette opération. Ces propos ont été recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Le secrétaire général devra voir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour les informer des détails pour la conduite des élections et en particulier la révision du fichier électoral. Il faut que chacun soit dans son rôle. C'est le rôle de la CENI de préparer les choses de façon claire, indépendante, inclusive et crédible. C'est le rôle des partenaires politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition, de se mettre d'accord sur le reste. Ne demandez pas à la CENI de faire plus que ce qu'elle peut faire. Mais je peux ajouter, in fine, que les partenaires sont prêts en ce qui concerne un soutien à la révision du fichier électoral. Qu'on nous dise simplement comment ça va être fait, etc. C'est quand le jour J pour que nous commencions. Parce que ça, c'est un préalable à tout le reste. Et c'est aussi un travail technique, au fond. Peut-être pas que nous perdions trop de temps à politiser ça. Il faut que nous trouvions une formule assez rapide sur cette question-là.
Notez que le président de la CENI avait écrit à Ban Ki-moon le 3 décembre dernier pour demander l'appui de l'ONU aux prochaines élections en RDC. Ambroise Mamba, directeur général de la chaîne de presse Tropicana, le chef de la MONUSCO, demande que l'on ne perde pas du temps. Pensez-vous que la classe politique congolaise prend en compte ce facteur temps?
Je ne pense pas. Je ne pense pas que le facteur temps soit pris en compte actuellement, mais je me dis que ça fait beaucoup de choses à la fois pour moi. Qu'on parle de la révision des fichiers électoraux, c'est un sujet qu'on a toujours débattu avec chaque élection. En 2011, on avait également abordé la question. Mais le plus important pour moi actuellement, est-ce que c'est la révision des fichiers électoraux? Ça fait beaucoup de choses à la fois parce que le même secrétaire général des Nations Unies encourage le dialogue politique en RDC. Alors, je me demande qu'est-ce qu'on doit privilégier entre la révision du fichier électoral puisqu'on veut qu'on ait des élections paisibles et crédibles, ainsi de suite. Et est-ce qu'il faut privilégier cette révision ou il faut privilégier le dialogue, ainsi de suite? Je me dis que moi, à ce stade, nous devons parler dialogue. D'abord dialogue, et le reste après. Parce que si nous parlons dialogue, dans ces dialogues, nous pouvons aborder toutes les questions qui divisent, toutes les questions qui fâchent, même l'enrôlement des nouveaux majeurs, même la révision du fichier électoral, même la manière même de nous engager dans les processus électoraux pour que nous puissions avoir des élections crédibles. Je pense que nous allons aborder toutes ces questions dans les dialogues. Mais si nous oublions les dialogues, nous pensons à autre chose, puisqu'il faut parler élection directement, je pense que la classe politique actuellement engage par le chef de l'État dans les dialogues risque d'être dispersé, et lorsqu'il y a la dispersion des énergies, à ce moment-là on ne risque pas d'atteindre un but. Est-ce que les Nations Unies sont en train de nous aider? Je me demande, est-ce qu'on ne nous engage pas à la fois à beaucoup de choses pour qu'on soit perdu par rapport au temps? Même quand il parle de la politisation de la question, mais j'ai dit ça l'est. C'est une question politique de toutes les façons. C'est une question politique. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre, ou bien quel est le but qu'on veut atteindre en révisant les fichiers électoraux? La question est politique.
Oui, mais dialoguer, Ambroise Mamba, quand vous suivez les différents acteurs politiques congolais, ça va un peu dans tous les sens, hein, la matière qui doit figurer au menu de ce dialogue. Le dialogue serait-il la solution magique? Passez-moi expliquer.
Le dialogue, c'est pour éviter de plonger le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Ça veut dire que s'il y a un consensus politique entre la majorité, l'opposition et la société civile, je pense qu'on va engager le pays dans le chemin de la paix. Mais s'il n'y a pas dialogue, même s'il y a élection, on n'est pas sûr d'avoir un pays sur la voie pacifique. Et toutes ces questions, on parle des élections et ainsi de suite. Je voudrais qu'aujourd'hui les Nations Unies et la MONUSCO également engagent le pays sur le chemin du dialogue en rapport avec la COCAD d'Addis Abeba, la résolution 2098, que Mamane Sidiku aujourd'hui se dise, mais écoutez, la charge qui revenait à son prédécesseur peut lui revenir aujourd'hui de pouvoir engager la RDC dans le chemin de dialogue, soutenir ce dialogue pour amener la classe politique à se parler. La question de la révision du fichier électoral va trouver son compte là, dans les dialogues. Mais si on oublie les dialogues, on va passer à côté et ça va nous replonger, peut-être replonger le pays dans le chaos.
Giscard Koussema, directeur général du canal Future Télévision, une télévision qui n'aimait plus depuis un moment. Giscard, pour vous, pour Ambroise, la priorité, c'est le dialogue, la révision du fichier électoral. C'est une matière même du dialogue. C'est pas une priorité.
J'ai plutôt une autre lecture. Le dialogue n'est pas une situation d'exception. Le dialogue, il est permanent. Et le dialogue devrait se faire au niveau des institutions existantes. Rappelez-vous de ces concepts évoqués chaque fois par les opposants lorsqu'ils parlent d'une tripartite. Mais c'est ça aussi, le dialogue. Donc, si les institutions qui étaient là pouvait promouvoir les dialogues, on n'en arriverait pas là. Mais les dialogues tels qu'on les pense d'abord, on ne sait pas le classer par rapport à la Constitution, on veut lui donner un pouvoir magique qu'il n'a pas. Le problème devrait se résoudre au niveau des institutions qui existent. Je voudrais d'abord revenir à la déclaration de M. Sidikou. Mais M. Sidikou n'a rien dit de nouveau. Il rejoint plutôt les acteurs politiques de l'opposition qui n'ont cessé de réclamer ce que lui a dit dans d'autres termes. Ils l'ont toujours dit dans d'autres termes. L'une des raisons du rejet, rappelez-vous, par la dynamique de l'opposition, du calendrier dit global qui avait été publié par la CENI, c'était quoi? Le fait de ne pas enrôler les nouveaux majeurs et donc le fait de ne pas avoir révisé le fichier électoral. Et ils sont même allés jusqu'à faire une contre-proposition. Mais quelle a été la suite de cette contre-proposition? Vous vous rappellerez, les opposants à l'époque ont même fait la ronde des institutions pour déposer leur contre-proposition et donner les raisons de leur refus pour dire que c'était une question éminemment politique, pardon, éminemment technique. Il n'appartient pas à un forum politique de résoudre un problème technique. Il y a deux jours, Vital Kamerhe a réaffirmé son refus de participer au dialogue suivant les formats actuels. Pourquoi? Parce que les matières inscrites à l'ordre du jour, selon lui, relèvent des prérogatives naturelles des institutions existantes. Donc, la question du fichier électoral, c'est une question technique et l'institution technique mise en place, c'est la CENI. Donc, on
qui doit résoudre ce problème.
Qui devrait résoudre ce problème. Et c'est au niveau de la CENI qu'on devrait promouvoir ces dialogues. Ils ont toujours parlé de la tripartite, mais la CENI, même lorsque le partenaire vienne faire des contre-propositions, mais il y a une fin de non-recevoir. Donc, il ne faudrait pas donner un pouvoir magique à un forum politique qui, d'ailleurs, ne se conforme même pas aux prescrits de la loi. Il n'y a pas une obligation.
Alors, Giscard Koussema, cette révision du fichier électoral, est-ce qu'elle devrait être partielle, elle devrait être totale?
Parcelle ou totale, ça devrait s'inscrire dans les temps. C'est une question technique, on l'a dit. La CENI est une institution technique, mais j'ai l'impression plutôt que c'est la CENI qui est en train de politiser cette question. Pourquoi je l'ai dit? La dernière sortie du responsable de la CENI dit quoi? Que lui voudrait conditionner le calendrier à publier par la tenue d'un dialogue. Mais d'où tire-t-il ses pouvoirs? Mais il vient finalement faire la part belle. C'est une marque d'inféodation au pouvoir. Ça, c'est le désir du pouvoir, une institution qui est censée être neutre et technique.
Merci.
Qui vient conditionner. Donc, nous pensons que la CENI, c'est l'instance technique. C'est à la CENI de donner, de promouvoir, si elle se sent limitée, mais c'est au niveau des partenaires, c'est à ce niveau qu'il faut avoir cette tripartite-là. Merci. Et parler de cette question technique plutôt que d'aller s'appuyer sur des considérations politiques, c'est alors que la CENI, donc je pense que c'est la CENI,
et donc la CENI
qui est en train de
technique.
Politiser, mais c'est une instance
voilà,
technique
absolument.
Et neutre.
Merci. Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi dans la province du Congo central. Comment vous analysez cette question de la révision du fichier électoral? Était-ce une priorité ou devrait simplement figurer parmi les matières à traiter au dialogue?
À mon avis, merci pour la question. À mon avis, la révision, la question de la révision du fichier électoral est une priorité des priorités. Et dans la mesure où cette révision permettrait à passer une élection et une élection qui pourrait être où on aurait un nombre réel et réaliste de vrais électeurs. Alors, mais au départ, je me dis, on parlait d'une part de l'enrôlement de nouveaux majeurs et de l'autre part, c'est la révision du fichier électoral. Bon, je me pose la question. Ceux qui parlent de l'enrôlement de nouveaux majeurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont un peu changé de langage parce que on a compris qu'il faut que tout le fichier électoral soit révisé parce qu'il y a des gens qui sont décédés, et nous connaissons l'amalgame qu'on a toujours fait dans cette question des élections. Et il est essentiellement nécessaire à ce que nous puissions passer à cette révision du fichier électoral. Mais lorsque on pense à réviser la Constitution parfois, vous savez, il y a à réviser, pardon, le fichier électoral.
il faut que en principe que la CENI passe cette information à toutes les parties prenantes et que toutes les parties prenantes aux élections sentent la nécessité de la révision du fichier électoral. Mais je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde s'est mis d'accord. Et donc, il est essentiel que ce fichier électoral soit révisé.
Alors, Ambroise Mamba, la révision totale ou partielle, s'il vous plaît, du fichier...
Il faut vraiment la révision totale, parce que partielle risquerait d'avoir encore des zones d'ombre pour faire l'objet de contestations. Vous savez qu'on n'a jamais passé une élection sans contestation en RDC.
Alors, Charles...
Alors, utiliser ce fichier électoral de manière globale, le grand souhait.
Alors Charles, Ambroise va également répondre à la question, Giscard aussi, parce que vous parlez de la révision totale du fichier électoral. Est-ce que cette révision pourrait s'effectuer dans les délais constitutionnels? Ne serons-nous pas dans un glissement de fait?
C'est là le problème. Moi je me demande, lorsqu'on projette de la constitution, on le fait de manière parfois biaisée, alors que les vraies questions qui passent ne sont presque pas touchées. Vous savez, aujourd'hui, nous courons parfois derrière l'État. Et toutes les élections qui sont faites en RDC ont toujours été organisées dans la précipitation. Je parle des dernières élections, beaucoup plus de 2011, où le président de la CENI était dans une contrainte parce que l'opposition faisait la pression, il faut respecter les délais, alors que le gouvernement ne s'est jamais arrangé pour préparer les choses de manière responsable dans les délais. On a 5 ans, après une élection, on commence.
Merci.
Au lendemain d'une élection, on doit entrer en préparation de la prochaine élection. Ce qui n'a jamais été le cas pour la RDC. Ce qui fait qu'à la fin de chaque mandat, ou à la veille de chaque temps, on est devant beaucoup de matières à traiter et on est obligé de faire des choses dans la précipitation.
Merci Charles, merci Charles.
Je voudrais dire quelque chose à Charles, mais aussi à Giscard, parce que Charles a dit que la révision du fichier électoral est la priorité des priorités. Je me dis, en quoi elle est une priorité? Lorsqu'on révise le fichier électoral, c'est pourquoi? C'est pour aller aux élections. Mais comment on va aller aux élections dans les contextes actuels de notre pays? Est-ce que nous faisons réellement la lecture des événements politiques en RDC ou nous ne le faisons pas? Nous ne sommes pas, nous savons tous que le chef de l'État a été élu pour la première fois en 2006 pour un mandat de 5 ans. Et il a été élu pour la deuxième fois en 2011. Nous ne sommes pas en 2011. Nous ne sommes pas en train de préparer l'élection de 2011. Nous sommes en train de préparer l'élection du tout dernier mandat du chef de l'État, pour qu'il y ait un autre qui va lui succéder. Mais le problème, c'est à ce niveau. Est-ce que nous sommes déjà prêts à aller aux élections? Non, nous ne sommes pas prêts. Mais puisque nous ne sommes pas prêts à aller aux élections pour qu'il y ait un successeur à Joseph Kabila, nous devons alors nous parler. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous ne trouvons pas qu'il y a un danger qu'après 2016, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'argent pour qu'on organise les élections, rappelez-vous de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a demandé à la CENI de n'organiser d'abord que les élections provinciales. Et ça colle à la CENI, à la peau. Et ça, nous sommes déjà en 2016, au mois de janvier actuellement, novembre, c'est bientôt, c'est un peu de temps. Est-ce que la CENI est capable de pouvoir d'abord respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans les temps qu'on révise les fichiers électoraux?
On ne saura pas tenir les délais constitutionnels.
Voilà le problème qui se pose actuellement au pays. Est-ce que nous les voyons ou ne les voyons pas? Nous les voyons. Puisque nous les voyons, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que nous devons oublier pour nous engager dans un bras de fer, pour voir qui va gagner l'autre, qui est plus puissant, qui est plus fort? Non, nous devons alors nous parler. Voilà le chef de l'État. Voilà pourquoi le chef de l'État n'a pas hésité d'engager le pays dans le chemin du dialogue. Parce qu'il s'est dit que si nous nous engageons dans le chemin du bras de fer, qui va gagner et qui va échouer, ça veut dire que nous plongeons le pays dans un chaos, dans une situation d'ingouvernabilité. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait le dialogue.
Mais, si
nous
mais Ambroise, dialogue. Ambroise, qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui pensent que la majorité s'est organisée pour qu'on soit dans cette situation où on est devant un mur?
C'est un procès d'intention. Est-ce qu'ils en ont des preuves? Elle s'est organisée. C'est quoi la preuve? Moi, je suis journaliste. J'analyse la situation de mon pays par rapport aux faits.
c'est quel fait qu'il me présente pour que moi, je m'en rende compte qu'effectivement, qu'il y a eu une organisation de la part de la majorité présidentielle pour qu'on se retrouve là. Je me dis tout simplement qu'il n'y a pas d'argent. Je les constate. Parce qu'il n'y en a pas, alors nous devons nous regarder en face, nous parler pour préparer l'avenir de ce pays au-delà, merci, peut-être de 2016. Parce qu'il n'y a pas de question telle.
Giscard Koussema, révision totale, partielle du fichier électoral. Est-ce qu'on pourra encore, à l'instant T, au moment M où nous parlons, tenir les délais constitutionnels?
À la date d'aujourd'hui, tout cela est possible. Il est possible d'organiser de élections, l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Rappelez-vous du planning qui a été publié il y a quelques jours par les acteurs politiques réunis au sein de la dynamique de l'opposition. Ils ont même donné des dates. Ils ont même dit qu'il y a des dates au-delà desquelles tout est encore possible. Donc nous ne sommes encore qu'au mois de janvier. Il y a un calendrier. Ils n'ont qu'à aller voir cette contre-proposition. Tout est possible. La révision électorale, c'est quoi en fait? C'est d'ouvrir les bureaux et, entre autres, c'est de demander aux jeunes d'aller s'enrôler. Simplement, tout est encore possible. Mais qui, d'où vient la mauvaise foi? Mais il y a quand même des gouvernants. Vous n'allez pas nous dire que ce pays n'est pas gouverné. Vous allez nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Vous voulez nous dire que l'élection est une situation exceptionnelle. Ça a été prévu depuis 2011. D'où est passé cet argent? D'où est venu l'argent qui a permis de financer des groupes d'individus à travers les FPI? Mais alors donc, on ne peut pas donner ces raisons-là qu'il n'y a pas d'argent. D'où est venu l'argent pour mettre en place, pour pour saucissonner les pays à travers les nouvelles provinces et installer les commissaires
spéciaux. Alors Giscard, un mot pour clôturer ce premier... Ambroise, s'il vous plaît. Giscard, vous clôturez ce premier tour de table parce qu'on va aborder le deuxième
thème. Il suffit simplement de promouvoir les dialogues au sein de l'instance technique qui est la CENI, qui est une tripartite. Il existe des contre-propositions qui ont été faites depuis une année, qui sont là, et les opposants, ceux qui s'opposent au dialogue, pensent que avec leur proposition, qu'il est encore possible de revoir les fichiers électoraux et merci, surtout d'organiser l'élection prévue par la Constitution et dans les délais constitutionnels. Tout est encore possible, merci, mais tout dépend de la volonté politique. Merci. Qu'on ne trouve pas parmi les acteurs gouvernants.
Merci. Charles, juste un mot pour conclure également à votre niveau ce premier thème.
Oui, je disais par rapport à la révision du fichier électoral, nous avons toujours fait, je disais que nous avons toujours fait des choses dans la précipitation à la veille de chaque élection. Nous devons avoir des histoires qui nous bloquent. Et aujourd'hui, la fois passée, c'était un problème même d'argent. Aujourd'hui, il s'est d'abord fait un problème d'argent pour organiser les élections des gouverneurs dans la province, à travers les provinces des membres. Et ce qui est aujourd'hui, et même à ce qui est des réunions dans la politique, aujourd'hui, on avance la question des manques de moyens. On devait, à mon avis, préparer depuis le mois de décembre de l'année 2011, après l'élection, le deuxième mandat du président de la République.
Charles.
Et toutes ces questions-là, je crois que toutes ces raisons-là, à mon avis, ne font que nous perdre de temps et ça montre à ce que, à une époque que nous ne voulons vraiment pas organiser les élections.
Merci.
Et que nous puissions.
Merci Charles.
Parce que les frustrations des uns des autres soient prises en compte, soient acceptées, parce qu'il n'y a pas une réelle volonté d'organiser des élections.
Merci.
Cette raison est toujours réunie. Et la fois passée, c'était notre problème. Aujourd'hui, c'est le dialogue.
Merci Charles. Ambroise, juste un mot. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, on peut organiser les élections?
Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit prêt aujourd'hui, parce que l'élection la plus importante, c'est la présidentielle de novembre. La présidentielle, ce n'est pas n'importe quelle élection. Et c'est d'ailleurs pour cela que les opposants font tout ce qu'ils font. Merci. Et c'est pourquoi il faut la préparer pour que on ne puisse plus connaître la mauvaise expérience de 2011 avec Ngoï Moulunda.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, 153 agents et fonctionnaires des services de l'État révoqués par le Premier ministre. C'est le contenu de 5 décrets signés le 14 décembre dernier et publiés le 14 décembre 2015, voilà, et publié mardi dernier. Ce nettoyage touche les agents et fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères, du ministère des Finances, division provinciale de l'ancienne province du Kassai-Oriental et de la fonction publique. Public. À cette liste s'ajoutent des agents de carrière des deux directions génératrices et recettes, à savoir la DGDA et la DGRAD. D'après les premières informations, en notre possession, il est reproché aux uns faux et usage de faux en matière de titres scolaires et académiques et aux autres plusieurs actes de détournement dans l'exercice de leurs fonctions. Jacques-Yves Molima.
D'après nos sources, ces décrets font suite au rapport d'une commission d'enquête mise en place par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ainsi, le secteur le plus touché est le ministère des Affaires étrangères avec 87 agents révoqués. Le principal grief retenu contre eux, usage de faux documents scolaires et académiques. Toujours selon nos sources, ce contrôle des titres scolaires et académiques des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères a été attesté par les services compétents des ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel d'une part et de l'autre par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Quant aux autres agents et fonctionnaires de l'État révoqués, 66 donc, notamment ceux de la DGDA, DGRAD et de la division provinciale des finances de l'ancienne province du Kassai Oriental, ils sont accusés de plusieurs actes de détournement dans l'exercice de leurs fonctions. En attendant de savoir quel pourrait être le sort de toutes ces personnes conformément aux textes réglementaires et de la loi en vigueur, le ministre de la fonction publique est chargé de mettre en application tous ces décrets du chef du gouvernement.
Merci Jacques-Yves Molima. Giscard Koussema, directeur général de Canal Futur Télévision, une télévision qui n'émet plus depuis un moment. Peut-on mettre cette action Giscard dans le cadre de l'assainissement de l'administration publique en RDC?
C'est une goutte d'eau dans la mer. C'est du menu fretin. Tous les jours, la presse révèle à travers des rapports parlementaires de scandales au très haut niveau parmi les hauts fonctionnaires de l'État. Mais lorsque ce du menu fretin, quelques fonctionnaires d'un ministère simplement pour un problème de titre scolaire, c'est carrément scandaleux ça. Mais les vrais faussaires se trouvent au sommet de l'État. Les vrais faussaires, c'est parmi les ministres, parmi les directeurs généraux, parmi tant d'autres.
Mais faut non, moi, je pense quelque part.
Mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer, c'est par la tête. Aujourd'hui, combien de rapports parlementaires ont été publiés et qui font état de scandales de détournement? On connaît les rapports sur la fibre optique. Le gouvernement ne fait rien. Le Premier ministre n'est pas rien. Et puis, cette décision pose un problème d'éthique. Écoutez, est-ce que c'est au Premier ministre d'aller révoquer des petits fonctionnaires d'un ministère? Principe de parallélisme des formes. Est-ce le Premier ministre qui a engagé ces personnes? Mais c'est quand même grave. Je pense que si on veut assainir et donner des bons exemples, il faut frapper fort. Je ne pense pas que le mal congolais, c'est parmi ceux dans les chefs de 153 personnes dont la plupart n'ont que un problème de titre académique, des faux diplômes. Je pense que le problème il est plus grave que ça. C'est quand même scandaleux à ces niveaux de l'État qu'on prenne des mesures. Ça s'apparente carrément à des règlements des comptes. Ce n'est pas au Premier ministre. Il y a des directeurs généraux, il y a des directeurs qui les ont engagés. Ce n'est pas le Premier ministre. Merci. Ce qu'on attend du Premier ministre, c'est des exemples à des plus hauts niveaux. Merci. Il y a dans des entreprises des cas avérés de détournement et illicites. Le Parlement, tous les jours, fait état des gros montants. Mais si c'est Merci. Pour des petits diplômes, alors allons-y, commençons par les sommets et vous verrez que c'est pratiquement la moitié des fonctionnaires de l'État sera révoqué pour Merci. Rien qu'un problème de diplôme.
Ambroise Mamba, directeur général de la chaîne de presse Tropicana, Giscard estime qu'il faudrait commencer au sommet de l'État et ce serait la meilleure manière d'assainir le climat, de mettre fin à la corruption, au détournement, d'assainir pratiquement l'administration publique en RDC.
Moi, j'analyse d'abord les greffes qui sont retenues à la charge de ces agents de l'État. Ils font et usage des faux par rapport aux titres scolaires et académiques. Je me dis combien de temps ils ont travaillé au niveau de l'administration publique avec ces titres et quel a été leur rendement. Est-ce que leur rendement a été positif, bien qu'ils ont commis ces délits?
Le problème ne serait-il pas au niveau de ceux qui les ont engagés, qui devraient vérifier préalablement tous ces documents, par exemple?
Justement, c'est pourquoi je me pose la question. Combien de temps ils ont travaillé dans ces conditions-là? Quel a été leur rendement? Si le rendement a été positif, je pense que le problème des titres académiques ne se poserait même pas. Et deuxième chose, on parle de détournement. Mais si on parle de détournement, là, je suis tenté de rejoindre Giscard. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui détournent et on ne les inquiète même pas. Dernièrement, la semaine passée, on a parlé même de ce qui s'est passé au FPI. Il y a des ministres insolvables qui agenouillent pratiquement les fonds de la promotion de l'industrie. Et c'est des ministres qui sont là au gouvernement. Matata Ponyo devait le regarder pour voir qu'il... elles ont pris à elles seules plus de 3 millions de dollars comme ça, l'État. Mais le Premier ministre ne les a pas inquiétés, il ne les a pas révoqués. Et, mais c'est quoi ce qu'il veut donner comme signaux à l'opinion nationale pour dire qu'effectivement je chasse ces agents et fonctionnaires de l'État parce qu'ils ont des titres fraudulés, des titres académiques, ainsi de suite. Je me dis qu'il faut qu'il puisse regarder dans sa propre maison, dans son propre gouvernement, qu'il y a des gens qui ne l'aident pas à avancer, et à ce niveau-là, il faut frapper très fort.
Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi dans la province du Congo central. Comment vous avez analysé cette actualité dans le Congo central?
Merci de la question. Notre journal s'intitule Gouvernance Plus. On a toujours pensé dans nos réflexions contribuer à la bonne gouvernance, parce que cela est venu d'une émission qui s'occupe de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance pose énormément de problèmes en République démocratique du Congo. Elle se porte bien, alors très bien. Par rapport à mon confrère de l'Institut qui a dit que le Premier ministre ne pas d'activité, bon, là j'aimerais un peu réciter pour dire que les agents, par rapport aux explications du ministre de la Fonction publique, les agents de cette classe-là ne peuvent être révoqués que par le Premier ministre. Alors, il est dans ses droits de les révoquer. Mais là où je peux peut-être me poser la question, et c'est lorsqu'on voit dans les rangs du Premier ministre, dans son gouvernement, il a des mauvais élèves. Et les confrères de Tropicana l'a bien dit, et qui sont cités dans les rapports de parlementaires, du contrôle parlementaire sur les dossiers du pays. Où les ministres se permettent. Ils n'ont même pas pensé à l'incompatibilité de leur fonction, parce qu'à un certain niveau, on doit quand même penser à cette question. Un ministre, c'est un homme d'État, un ministre, c'est un donneur d'éléphants en France. Un ministre, c'est un bon serviteur. Mais lorsque les ministres sont cités dans des dossiers pareils, la maladie est très grave. Alors, le Premier ministre qui a commencé quelque part, là nous devons quand même le féliciter, mais il devait commencer à Kinshasa, sa propre maison, avec ce mauvais élève qui doit commencer à s'appuyer. Maintenant, j'ai mis le courage de démissionner parce que ces ministres et certains ont été déjà certains rapports, et si la honte qui est certaine se serait perdue et pendue, ou si il serait perdue, si ils avaient la conscience de la charge d'État qu'ils assument, en tout cas, je crois qu'ils auraient déjà démissionné.
Charles.
Malheureusement.
Charles, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission, et donc en un mot pour vous, pour terminer avec vous sur cet aspect, la meilleure manière de moraliser la vie publique en RDC serait de commencer par le fait que l'exemple doit commencer par le haut.
Ah oui, on va commencer par le constat tout que ça donne de vraies leçons. Ça veut dire qu'on commence par un petit peuple, il y a des frustrations, des remords qui se créent. Mais lorsqu'on commence par le responsable, ceux qui sont censés donner des leçons, qui prétendent donner des leçons aux autres, dès qu'on commence, si on commence par ces gens-là, ça donne une leçon. Mon vie, nous savons que nous venons sur sa mémoire.
Merci.
Qui n'a pas hésité de jeter les mis en prison. Et c'est une bonne leçon qui a servi de mots à ceux qui pensaient qu'ils peuvent faire de n'importe quoi avec l'argent de l'État ou avec le bien de l'État.
Merci Charles. Giscard Koussema, quelle serait selon vous la meilleure manière d'assainir, de moraliser la vie publique en RDC?
D'abord, il faut respecter la forme. Tout commence par la forme, simplement. Donner le moyen. Il faut faire de vrais états généraux et non pas prendre de petits cas isolés et qui ne respectent parfois pas la forme. Même si on reconnaît au Premier ministre le pouvoir des pouvoirs, le pouvoir de révoquer des fonctionnaires, mais il faut que cela respecte la forme. Il me semble que certains d'entre ces personnes n'ont pas eu le temps de donner leurs moyens de défense. C'est ce que je voudrais dire. Par rapport à notre situation générale politique, je voudrais dire que le dialogue est un état permanent, c'est pas une situation d'exception. Donc il appartient au chef de l'État, tant que garant de la nation, de prendre la hauteur de la situation et des mesures idoines. Il ne devrait pas, lui, conditionner son sort par la participation de tel ou tel individu. On a l'impression qu'aujourd'hui, le chef de l'État attend un secours d'une personnalité ou d'une autre. Il lui appartient, chaque fois que de besoin, de prendre le devant. On l'a vu, François Hollande, n'a pas hésité à appeler Sarkozy, qui est pourtant son concurrent politique. Ils ont dialogué. Et pour cela, on n'a pas pu faire du folklore et comme donc, on veut le faire chez nous. C'est
ouvert.
À lui de prendre les devants. Il peut aller rencontrer tel ou tel autre individu. C'est aussi un signe
d'ouverture.
Voilà.
Ambroise Mamba, conclusion.
Je devais parler de dialogue ou je devais parler des agents de l'État.
Enfin,
j'ai
parlé
de dialogue, j'ai parlé de deux. Bon, par rapport aux agents de l'État, je pense que le Premier ministre doit mettre de l'ordre dans sa propre maison. Ça ne veut rien dire ce qu'il a dit par rapport aux fonctionnaires de l'État, mais par rapport au dialogue, le chef de l'État, il y a une échéance très importante et c'est pour cela qu'il a besoin de tout le monde autour de la table pour qu'on parle dialogue et paix.
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse est terminée pour ce soir. Réalisation Kéline Couté, supervision Julien Nyamouini, mise en nom Sylvain Matundou, présentation et coordination Alain Roumouchinge. Bon week-end à vous.